pour nous en évidence ici le mérite d'Abraham d'avoir été capable de croire dans ce que Dieu lui a promis. Mais j'ai passé une heure tout à l'heure à essayer de montrer en quoi il y avait un mérite. C'était invraisemblable pour Abraham d'entendre ce qui était promis à Abraham. Et finalement, Abraham a eu ce courage de cette foi, alors il deviendra Abraham. Est-ce que c'est clair? Ou inversement? Voilà l'explication de Rachid, nous dit Armani. Effectivement, c'est à peu près ainsi que Rachid explique. Et Armani va s'opposer à cette lecture. Mais pour ne pas qu'il y ait de confusion, je répète la lecture de Rachid. Dieu, Abraham a eu foi en Dieu, ça veut dire. Il a cru dans la promesse que Dieu lui a faite, et c'est suffisamment clair maintenant, j'espère. Cette promesse était facile à comprendre, mais à admettre, c'était très difficile. Parce qu'Abraham se connaissait comme stérile, selon les lois qui régissent les sociétés humaines. Finalement, il a eu ce courage. Et Dieu a imputé à cette foi un mérite. Je voudrais vous dire tout de suite pourquoi Nachmani va s'opposer à cette lecture. Parce que cette lecture, et elle est authentique, la lecture de Rachid. Rachid vient avant Nachmani, et vous connaissez les règles de l'exégèse traditionnelle. On ne contredit jamais quelqu'un d'antérieur. Il est toujours plus proche de la source. C'est donc qu'il y a une raison autre qui fait qu'on ne peut pas dire comme lui. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit n'était pas la vérité. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais essayer de vous montrer ça d'après cet exemple. Nachmani a une raison de laquelle Rachid ne tient pas compte pour dire on ne peut pas lire contre Rachid. Pourquoi? Parce que la thèse de Rachid ici, et j'ajoute tout de suite, elle est authentique, elle est vraie, c'est ça que le verset veut dire pour Abraham. C'est la thèse chrétienne, que c'est la foi qui est le mérite. Est-ce que c'est clair? Ou je veux dire, ça va dans le sens de la thèse chrétienne. Alors Nachmanide va nous expliquer à sa manière pourquoi nous ne pouvons pas lire comme ça. Mais ce n'est qu'à la fin de l'heure que vous aurez la réponse. Faites attention. J'entends bien que tout ceci est un peu difficile à comprendre. Alors il continue, Nachmani, ve eni mevin, et je ne comprends pas, dit Nachmani, ma zkut hazot, qu'est-ce que c'est que ce mérite? On revient un peu en arrière, ok? Est-ce qu'il y a un mérite pour quelqu'un comme Abraham, qui a foi en Dieu, d'avoir foi dans ce que Dieu dit? Si c'est Dieu qui se révèle à lui, où est le mérite de croire en ce que Dieu dit? Est-ce que c'est clair? Oui, l'objection de Nachmani. De quoi tu parles? Qu'Abraham a eu un grand mérite d'avoir foi dans ce que Dieu lui dit là. Si tu connais Abraham, tu sais très bien qu'il suffit que Dieu lui parle pour qu'il y croie. Vous suivez l'objection d'Abraham? Ça a l'air de démolir tout ce qu'on a vu pendant une heure et demie. Okay? Mais je vous dirai à la fin, un petit peu de suspense, je vous dirai à la fin pourquoi Nachmani parle comme ça. La main, lo yaamin, benoke emun. Pourquoi Abraham ne croirait pas dans un Dieu croyable, dans le Dieu fidèle, objet de foi? Vehu anabi ve'atmo, alors qu'il est prophète lui-même, il sait très bien que c'est Dieu qui lui parle. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Cette explication consiste à dire, quelqu'un sait que c'est Dieu qui lui parle et qu'il a mérite d'y croire. Est-ce qu'il peut faire autrement? D'autant plus qu'il est celui qui croit. Velo ish el veikarev. Un prophète sait que Dieu n'est pas un homme et qu'il ne ment pas. Umish et emin ishrot et veno. Et celui qui a été capable d'une telle foi d'aller jusqu'à risquer de sacrifier son fils parce que Dieu le lui a demandé, c'est comme ça qu'il l'avait entendu. Et beno et achid, son fils unique. Ahou, le préféré, l'aimé, Isaac. Veshear adisionot, celui qui a surmonté toutes les autres épreuves qu'on nous raconte dans l'histoire d'Abraham. Ech lo yaamin babesora tova, bibsora tova. Comment ne croirait-il pas dans une bonne nouvelle? Vous suivez? Et là, déjà, il y a un petit clin d'œil dans l'explication de Nachmani. Vous avez entendu le mot de besora tova. Je reviendrai au christianisme tout à l'heure. Besora tova, c'est l'expression hébraïque traduite par le mot de évangile en grec. Okay? Bonne nouvelle. Alors voilà l'objection de Nachmani contre Rachid. Tu nous dis qu'Abraham a eu mérite de croire. Mais où est ce mérite? Alors qu'il a cru chaque fois que Dieu lui annonçait des catastrophes, et maintenant que des catastrophes possibles, et maintenant qu'il lui donne une bonne nouvelle, il n'y croirait pas. Où est ce mérite? Je continue. Et voilà comment faut-il lire Dinarmanide. La lecture convenable à mes yeux, Dinarmanide, qui est amère, c'est qu'on devra dire comme cela, chez Emin Bachem, qu'Abraham a eu foi dans ce que Hachem lui dit, et Hachav, et qu'Abraham a pensé, qui betzitko shel HaKadosh Baruch Hu, iten lo zara al kolpanim, que c'est par charité que Dieu lui donnera un enfant dans tous les cas. Et ça veut dire qu'Abraham a pensé qu'il ne méritait pas d'avoir un enfant, et que si Dieu lui promet un enfant, c'est au-delà du mérite, sans tenir compte de son démérite. Que c'est tout à fait autre chose. Que la difficulté qu'Abraham avait à croire, c'est pas qu'il doutait de Dieu, il doutait de lui. Est-ce que lui était capable de cette fécondité? Que Dieu promette la fécondité, Dieu tiendra. Mais si Abraham ne mérite pas, eh bien cette promesse s'accomplira chez un autre. Mais lui, est-ce qu'il en était capable? Et alors voilà comment il a pu avoir cette foi totalement lorsqu'il a pensé que c'était par grâce que Dieu lui donnait cet enfant, et non pas tenant compte de ses mérites à lui, Abraham. Et donc il faut lire radicalement autrement. Il faut lire non pas comme Rashi, que Dieu a eu, qu'Abraham a eu foi en Dieu, et que Dieu a imputé cette foi en mérite, mais qu'Abraham a eu foi en Dieu, et qu'il a imputé la promesse de Dieu à une tzedaka, que Dieu lui fait un cadeau. Alors il peut croire. Bon. Vous voyez donc, nous avons deux lectures radicalement différentes. Je continue le Narmanide, c'est pas très long, et je reviens ensuite à l'explication. Et donc, les Hachav qui betzitko shel HaKadosh Baruch Hu iten lo zera al kolpanim, velo betzitkat Abraham, et pas par le mérite d'Abraham, ou bischaro, et comme salaire, afalpish amarlo schacha vemeod. Bien que, dans un texte précédent, Dieu avait dit à Abraham, ne crains rien, tu as un grand salaire en réserve. Mais Abraham avait des raisons de croire qu'il avait déjà utilisé ce salaire et qu'il n'avait pas en compte, suffisamment de comment on dit, vous avez compris de couvert, Umehata lo ire penigromahet. Et à partir de maintenant, Abraham n'a plus peur qu'une faute quelconque diminue son mérite, puisque la promesse qui lui a été faite, d'après lui, maintenant, ne tient plus compte du mérite. Que c'est une promesse qui s'accomplira, qu'Abraham mérite ou pas. Et vous voyez que ça se passe au niveau de l'identité, et non pas des comportements d'actes. Et bien que dans une prophétie antérieure, Abraham a pu penser que l'accomplissement de cette promesse de fécondité serait conditionnel, selon le salaire de ses actes, attends, maintenant, qui va chez Ticho, maintenant que Dieu lui a promis, chez Lo Yere Minachet, qu'il n'a pas à avoir peur du démérite, Veiten Lo Zera, et qu'il lui donnera quand même, c'est moi qui ajoute quand même, une postérité, et Emin Kinachonadaba. Il a cru, il a pu enfin croire que cela était définitif, mais Ima Elohim, de la part de Dieu, mais Ima Elohim Emet, de la part du Dieu de vérité, Lo Yashuv Mimena, et que Dieu ne reprendra pas cette promesse, car c'est une charité que Dieu lui fait, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'interruption, puisque ça ne dépend pas d'une clause quelconque. Ainsi qu'il sera écrit d'autre part, car j'ai juré, dit Dieu, et ce serment est, il n'y a pas de repentance à ce serment, comme dira d'ailleurs un autre style. Velo Yashu, et que la promesse ne sera pas reprise. O Yamel, et il faut dire aussi qu'Abraham et Emin chez Yelozara, Yoresh al-Kolpani. Qu'Abraham a cru qu'il aurait une postérité qui en serait son héritier, dans tous les cas al-Kolpani, la Kadosh Baruch Hu, et Dieu a imputé encore. Cette promesse a été considérée cette confiance qu'Abraham a eue en Dieu dans cet événement-là, l'Itzdaka en mérite les dor vador pour la suite des générations qu'il est en la Mishmor Loel Bahavura Tzidkato vechasdo, kederech leolam eshmorlo chassadai. Et c'est un verset des psaumes qui est cité, c'est-à-dire quelque chose d'autre que Narmanide ajoute, qu'il a eu foi que cette promesse serait valable pour toute éternité, et pas seulement pour lui, Abraham, que lui aurait un fils, mais qu'il aurait une descendance jusqu'à la fin de l'aboutissement messianique. Voilà donc, je vous rappelle le parallèle de ces deux lectures, et nous allons essayer de comprendre pourquoi Narmanide intervient comme il intervient par rapport à la lecture de Rachid. Donc, Rachid disait ceci, que Abraham eut foi en Dieu et que Dieu a imputé cette foi en mérite. Alors que Narmanide nous dit, mais nous ne pouvons pas dire comme ça. Abraham a eu foi en Dieu et Abraham a considéré que la promesse de Dieu était tzedaka, était un don de Dieu ne tenant pas compte du mérite. La manière de comprendre cette controverse, finalement, doit tenir compte de ce qu'a été, en ce temps-là, la controverse entre la tradition juive et la tradition chrétienne sur ce point. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce texte, parce qu'il me semble être une introduction indispensable aux études que nous aurons dans les soirées, dans la semaine qui vient, sur la définition du monothéisme d'Abraham et des problèmes de convergence ou de divergence, en particulier la tradition chrétienne et la tradition. Voilà de quoi il s'agit. La position de la chrétienté consiste à dire que c'est essentiellement la capacité de foi qui sauve. Et que par conséquent, c'est dans la foi que consiste le mérite et non pas dans les œuvres. Bien entendu, les actes. Bien entendu, les œuvres sont importantes. Mais c'est la foi qui est le mérite. Qui est un juste pour la tradition chrétienne, je pousse les choses à la limite pour que ce soit bien clair, c'est celui qui a la foi. Et le fait d'avoir la foi, c'est le mérite qui sauve. Alors que pour la tradition juive, encore à la limite, bien entendu, c'est l'homme de la foi qui accepte la loi. Mais c'est l'accomplissement de la loi qui est le mérite. Et par conséquent, vous voyez pourquoi Narmanide réagit contre la lecture de Rachid, en disant, mais ta lecture a donné de l'eau au moulin à la controverse chrétienne, puisque tu nous lis qu'au niveau d'Abraham, la foi est un mérite. Alors donc, il faut lire autrement. Il faut lire, sans changer les mots, qu'Abraham a cru en Dieu, en ce que Dieu lui dit. Et quelle était la difficulté jusqu'à présent? C'est qu'il n'arrivait pas à croire dans son propre mérite. Et par conséquent, cette promesse était aléatoire. Puis est-ce qu'elle avait une clause? Abraham entendait cela, tu auras un fils si tu mérites. Alors il disait, peut-être que je ne mérite pas. En quoi doutait-il? Non pas dans la capacité de Dieu de lui donner un fils, mais dans la capacité d'Abraham de le mériter. Et alors, lorsqu'en fin de compte, il a compris que cette promesse de Dieu ne dépendait pas de sa conduite, mais de son être, alors il a été rassuré. Et ce Narmanide est très fort. Ça veut dire que l'accomplissement des promesses données à Israël ne dépend pas du mérite ou du démérite. Qu'est-ce qui dépend du mérite? Que cet accomplissement se fasse le plus vite possible. Mais qu'il se fasse, en fin de compte, ne dépend pas du mérite ou du démérite, parce qu'en fin de compte, c'est à une manière d'être homme qu'a été faite cette promesse, et d'une certaine manière, les mérites sont préalables à Abraham. Les mérites, ce sont les conduites qui a fait qu'Abraham est devenu Abraham. Et alors, à cette manière d'être-là, est donnée une promesse irreprenable, je ne sais pas comment dire. L'histoire d'Israël devra s'accomplir suivant sa programmation de chorale, si j'ose dire, parce que la promesse a été donnée. Quelle est la clause du mérite? Ça, c'est à l'échelle de l'individu. Qui méritera l'accomplissement de cette promesse? Et puis, c'est surtout dans le temps. Zaha, Hishena. Si on mérite plus, l'accomplissement arrive vite. Mais même si l'on ne mérite pas, et c'est jusque là que je vais avec la Gemara de Sanhedrin, même si l'on ne mérite pas, au temps prévu par la volonté de Dieu, ça s'accomplit quand même. Pourquoi? Parce que c'est déjà mérité au niveau de l'être, et que le niveau des actes n'est qu'un aménagement des conditions d'accomplissement de la promesse. Voilà ce que dit la phrase. Oh, une minute, je voudrais terminer. Il me manque 4 phrases. Voilà, je crois qu'il faut entendre ceci, ça c'est le fridouche, enfin la chose nouvelle que nous devons entendre. C'est que c'est Rachid qui avait premièrement raison. Parce qu'il parle d'Abraham. Au niveau d'Abraham, pour devenir Abraham, ce courage de la foi est un mérite colossal. Et cela reste vrai pour quiconque, à son tour, acquiert la capacité de foi d'Abraham. Je le dis. Les chrétiens ont raison de dire qu'être capable de croire comme Abraham, c'est un grand mérite. Et que cette foi-là a son mérite propre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'ex-païens arrivant à croire comme Abraham. Mais Narmanide a raison de dire, pour nous, juifs, nous sommes au-delà. Pour nous, juifs, il n'y a plus de mérite dans cette foi-là, je reviendrai tout à l'heure qu'à l'échelle individuelle, il faut la récupérer quand même, et qu'il y a un mérite à l'échelle individuelle, parce que c'est une donnée de fait, parce que c'est une donnée d'existence. Je ne reprendrai pas le terme d'élection qui a été dit tout à l'heure, mais l'idée, parce que le terme implique beaucoup de confusion, mais l'idée, c'est-à-dire il y a quelque chose d'irréversible, l'être hébreu. Et par conséquent, Nachmanide discute pour les juifs de cette lecture. Pour Abraham, Rashi a raison de dire ce qu'il a dit, parce que c'est la première fois que ça arrive et que c'est un mérite colossal d'avoir ce courage-là. Et ça continue, pour quiconque, membre des nations, accède à la foi d'Abraham. C'est un mérite colossal. Chaque fois que je rencontre un croyant de la foi d'Abraham, qui ne soit pas d'Israël, qui n'est pas né des Hébreux, qui n'est pas juif, je suis émerveillé. Je suis émerveillé parce que voilà un membre des nations qui a eu ce courage d'Abraham, arrivé à se hausser dans cette folie, apparemment, au-delà des conditionnements naturels, pour arriver à croire plus. La contestation commence lorsque ce membre des nations croyant de la foi d'Abraham se prétend être Israël et annuler Israël. C'est un autre problème. Mais à la racine, Rashi continue à avoir raison pour le chrétien lui-même. Lorsque j'entends la parole du chrétien qui dit qu'il croit comme Abraham, je suis émerveillé parce que c'est cette mutation qu'il est en train de faire en lui. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, Ken? Mais Nachmani nous dit, pour nous, le mérite est au niveau des actes et non pas au niveau de la foi, parce que cette foi, nous l'avons intégrée en existence. Nous sommes cela et nous n'avons plus à y croire d'une certaine manière. Alors je corrige, bien évidemment, celui qui sait consciemment qu'est-ce qu'il est en tant qu'hébreu, il est cette foi-là. Mais nous ne sommes pas tous consciemment, lucidement, hébreux lucides, si j'ose dire. Alors il faut la récupérer, cette fois-là, à l'échelle individuelle. Mais celle-là, elle ne dépend plus du mérite. Alors d'une certaine manière, oui. Lorsqu'un païen se dégage de son paganisme, l'astrologie, vous vous rappelez, et accède à la capacité de foi d'Abraham, qu'un salut est possible, il y a là, dans le comportement de la foi, un mérite vraiment. Et donc Rashi a raison. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Mais Nachmanide a raison de dire aussi, pour nous, c'est à un tout autre niveau que le problème doit être posé. Au niveau de la loi et de son accomplissement, et non plus au niveau de la foi. J'aurais à dire dans les jours qui viennent que le christianisme apparaît aux yeux de la tradition juive sur ce problème-là comme une régression, c'est-à-dire une espèce de retard en arrière au niveau de la foi qui n'a pas encore accédé au niveau de la loi. Mais vous entendrez certainement entre le père Dupuis et moi-même un espèce de dialogue de sourds, parce que nous sommes radicalement inversés. L'ordre de la tradition juive, c'est la foi d'abord. Et le problème commence avec la loi. Alors que pour la tradition chrétienne, la loi n'était qu'un préalable à la foi. Mais vous voyez à quel point il y a inversion radicale. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est-à-dire, le chrétien nous apparaît à travers l'histoire comme l'homme qui a entendu la bonne nouvelle des Hébreux, qui s'est mis en chemin vers la loi des Hébreux, et qui finalement a été arrêté quelque part par un mythe. Et il est resté au stade de la foi, qui n'arrive pas à se hausser à la majorité morale du stade de la loi, et alors il nous présente un schéma inverse, que la loi n'aurait été qu'un apprentissage pédagogique à la foi. Et vous voyez à quel point nous parlons de deux expériences radicalement différentes. L'une, c'est l'expérience de l'être hébreu, et l'autre est la foi d'abord, la loi ensuite, et l'autre est l'expérience de l'être non-hébreu, qui accède à la foi de l'hébreu, mais qui est arrêté à ce stade que de la foi qui sauve, alors que la foi l'indique, ne fait qu'indiquer la route de la conscience morale. Et voilà pourquoi j'aurais à dire, peut-être de façon un peu brutale, que le chrétien croit qu'il croit dans le Dieu d'Abraham, mais en réalité il n'y croit pas encore vraiment, parce que le Dieu d'Abraham mène à la loi de Moïse. Et voilà, à la limite, l'objet de ce qui sera notre controverse. Avec l'islam, c'est un autre problème, mais en tout cas, par rapport à ce. Voilà, j'arrête là mon exposé. Vous avez donc maintenant, bien sûr, le droit à la parole. Simplement, c'est moi qui pose une question. Est-ce que ça a été suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas de problème de vocabulaire? Bien, vous avez demandé. Vous avez.
Je crois que...
Bien, on va prendre 5-10 minutes. Okay, je vous ai.
Mais je crois que ce que vous venez de dire rejoint ce qu'on avait un petit peu soulevé la dernière fois au dernier séminaire. La différence entre terre jurée et terre promise. Et mais je crois qu'il y a quand même reste, et on n'avait pas résolu le problème, et c'était effectivement ce qu'il y avait une impasse, c'est que si effectivement le mérite est dans les actes, comment on peut concilier le fait que ça reste quand même quelque chose à conquérir et que la Torah puisse être un chemin. Pour que la Torah puisse être un chemin, il faut qu'il y ait effectivement une tension, donc que ce ne soit pas seulement une terre jurée, mais une terre promise. Et on était resté là, et je crois qu'on reste aussi au même...
Oui, si vous voulez, là vous faites allusion à une deuxième dimension de la promesse dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, j'ai parlé de la promesse de l'enfant. Et c'est la promesse de la terre. Mais enfin, le problème est le même, absolument. Oui. Je crois que la distinction qu'il faut retenir, et c'est un des essentiels de l'enseignement du Rav Kook, c'est la différence entre le niveau klal et le niveau prat. J'essaie de traduire en français. C'est-à-dire qu'il y a une promesse jurée, une parole jurée, au niveau de la collectivité de l'être hébreu, du klal, et qu'à l'échelle individuelle, nous sommes constamment à parfaire notre coïncidence avec cette identité collective qui, elle, a déjà obtenu ce serment. Malgré les mots, l'individu est en tension, alors que la collectivité comme telle, c'est irréversible. J'essaierai, si vous voulez, d'éclairer cela par la définition de l'espérance messianique. L'espérance messianique telle qu'elle est vécue par l'être hébreu est simultanément faite de certitude absolue et d'incertitude absolue, en même temps. Si vous voulez, il y a dans la conduite de l'espérance ces deux dimensions apparemment contradictoires. Espérer, c'est être certain, mais en même temps, être incertain. Comment ça s'entend? Je prends donc la formule la plus banale de l'espérance messianique. L'histoire aboutira au temps de paix. La consigne du Messie, c'est la paix. Le premier fils de David, c'est Salomon. Bon. Eh bien, il y a certitude absolue que le Messie viendra pour Israël. Il y a incertitude absolue s'il viendra pour moi, individu. C'est-à-dire, l'incertitude est au début, au niveau de l'individu. Et la certitude est au niveau du clan. Est-ce que c'est clair?
Mais est-ce que c'est pas justement la différence qui est entre être juif et devenir juif?
Je vais peut-être un peu changer le vocabulaire. Ah, je n'ai peut-être pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire devenir juif pour un non-juif?
Non. C'est être juif, disons, se sentir par rapport l'être du point de vue de la communauté, mais la judaïté étant, ne pouvant être en fait que du côté de l'incertitude, qui est quelque chose qui est en acte, qui est un chemin, donc qui est un devenir, qui est du côté du temps et non pas du lieu où on est, c'est-à-dire du rapport à la communauté.
Écoutez, il y a, si vous voulez, deux niveaux, dont l'un s'appelle Segula. Segula, c'est ce dont j'ai parlé au niveau collectif et qui est irréversible. Chaque individu d'Israël participe de cette Segula, c'est-à-dire de cette mise à part irréversible. Bien, c'est au niveau de l'être. Et il y a Bechira, la liberté des actes, au niveau de l'individu. Et alors, il y a des moments où c'est la Segula qui joue et des moments où c'est la Bechira qui joue. J'essaierai de le dire avec un autre vocabulaire, mais d'abord vous donner l'exemple du premier des patriarches qui se nomme Israël et qui est Jacob. C'est la tension entre le niveau Jacob et le niveau Israël. C'est à Jacob que les promesses ont été données. Mais il faut qu'il soit Israël pour qu'elles s'accomplissent. Alors irréversiblement, Jacob est devenu Israël, à l'échelle du clan. Mais à l'échelle de l'individu, nous naissons comme Jacob, il y a une tension qui fait de nous Israël, et qui est une tension perpétuelle, comme vous avez dit. Je pense qu'on peut le comprendre à ce niveau-là. Prenons la différence, si vous voulez, entre l'être hébreu et l'être juif. On va faire un effort d'identification. L'être hébreu n'est pas libre d'être hébreu ou de ne pas l'être. C'est une segula. Au niveau de l'être juif, il y a une apparence qu'on serait libre de se choisir juif ou pas, même né de ce peuple. Ce n'est qu'une apparence. En réalité, le juif, pas plus que l'hébreu, n'est pas libre au niveau de la segula d'être ce qu'il est ou d'être autre chose que ce qu'il n'est pas, ou d'être ce qu'il n'est pas. Il y a effectivement dans la dimension juive une espèce d'apparence de liberté, de légitimisation de son propre être. Mais au niveau de l'être hébreu, il n'y a absolument pas de liberté. Un hébreu est un hébreu, un point. Ça peut être un hébreu en bonne santé hébraïque, ça peut être un hébreu en mauvaise santé hébraïque, mais ça, ce goût-là, garde ce goût-là, si je veux dire. Mais ça, ce goût-là est irréversible.
on peut être un hébreu enrhumé, mais on est hébreu. Alors qu'un juif peut se croire, peut croire, dans l'apparence, que s'il est enrhumé, il cesse d'être juif. Non, parce que c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on n'est pas juif au niveau des idées, on est juif au niveau de l'être hébreu. Alors l'être hébreu peut être très enfoui dans l'identité juive, c'est ce que j'ai appelé l'araméen tout à l'heure, mais il est là de façon indélébile. Et alors, quand on arrive au point profond de l'identité profonde, il n'y a plus de liberté. C'est une illusion. J'ai eu ce dialogue-là un jour avec José Eisenberg, il y a assez longtemps. Nous étions dans un symposium pour les étudiants en Belgique à Bruxelles. Et puis j'étais très étonné d'entendre Josie parler comme cela. Un rabbin ne peut pas parler comme cela, en disant que oui, on est libre d'être juif ou pas. Il y a une dimension traditionnelle qui est radicalement oubliée. Je peux me permettre de vous dire, parce que je l'ai dit à côté de lui en public ce jour-là, non, c'est une apparence qui fait qu'un juif croit qu'il est libre ou pas libre d'être juif. Et vous savez à quel point l'histoire nous renvoie cette identité à la figure lorsqu'on feint de croire qu'on est libre de la quitter. Est-ce que c'est clair? Mais l'apparence est indéniable. Peut-être qu'il y a là une épreuve de la foi, oh, j'enlève le côté. Il y a certainement là, dans la dimension de l'exil, une mise à l'épreuve de la foi qui doit nous aménager une apparence de liberté. De telle sorte de faire cette preuve-là, qu'on est capable de se choisir, alors qu'en réalité, c'est une illusion, c'est une apparence. Ce qu'il faut, c'est s'authentifier. Ça, oui, c'est la distance Jacob et Israël. C'est à Jacob que les promesses ont été données. Et pourquoi elles ne s'accomplissent pas? Parce qu'elles concernent un certain Israël. Et dès que Jacob devient Israël, les promesses s'accomplissent. Mais seul Jacob peut être Israël, de la même manière que seul Abraham peut être Abraham.
Israël peut redevenir Jacob?
Bien sûr, quand il redescend en exil. C'est le texte de la Torah est très clair. Lorsque Israël redescend en exil, il est nommé de nouveau Jacob. C'est notre problème. Quelle est la fonction de l'exil? C'est un autre problème. Mais par rapport à notre question, je crois que ça met en évidence là.
Je parle de la conversion d'un juif en chrétien.
Ah, c'est pas Jacob un chrétien. La conversion d'un juif en chrétien, c'est Jacob qui devient Ésaü.
Ah oui.
Et non pas Israël qui devient Jacob. Or, on peut, puisque c'est le frère jumeau. Okay? C'est l'envers de l'endroit. Mais c'est pas notre problème. Okay? Et je dirais même plus, d'après la halakha, ça aussi c'est une apparence. Ça aussi, parce que l'identité hébraïque, même devenue négative, l'envers d'elle-même, c'est l'identité hébraïque devenue négative.
Quelle est la symbolique du fait que Jacob tient le talon de Ésaü? Il y a un symbole là-dedans.
Il est très 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 vigoureux. Il le talonne. C'est le talonneur. C'est un symbole très, très important, c'est plus qu'un symbole. Ça
veut quoi, dire on que. Dit pas talonner quelqu'un.
On dit, hein,
si,
la raccord.
La raccord, c'est l'esprit.
Ça, c'est traduit dans le dictionnaire français. Mais en hébreu, c'est le talonner. La raccord, c'est le pousser. La raccord va faire Michel, en le surveillant. Okay. Ça veut dire que dans l'histoire, cette identité qui sort de la matrice de Rivka, elle a d'abord l'apparence Ésaü. Et c'est à la fin des temps qu'on voit que c'est Jacob qui le remplace. C'est Ikpeta de Meshicha, les talons du Messie, vous vous rappelez de ça? Il y a là, si vous voulez, un problème très important dont je ne voudrais pas parler, j'espère pendant tout le séminaire, mais enfin, si le père du but pose la question, je serais bien obligé de parler.
C'est mercredi soir.
Mardi soir, et il sera mercredi aussi. Mais mardi soir, c'est lui qui parle. C'est le problème de l'archevêque de Paris,
voilà.
Si vous voulez.
Voilà,
bon, si vous voulez, mais enfin, c'est pas le moment maintenant. La question est que il a raison lorsqu'il dit que même chrétien, il reste juif, d'après la loi juive. Okay? Mais il le dit dans un autre sens. D'après la loi juive, ça veut dire que c'est un juif renégat. Alors que d'après lui, ça veut dire qu'il est un juif accompli. Okay? Alors oui, c'est tout le contraire. Enfin, au niveau de l'identité, c'est une identité indélébile. C'est ce que je voulais faire entendre. J'étais beaucoup frappé de cela ces dernières années. Et il y a, si vous vous rappelez de ce schéma que je cite souvent, il y a 2000 ans, l'hébreu est devenu juif. Et ça a énormément de connotations. Et le juif, c'est un hébreu devenu juif. Et vous voyez, un peu, j'ai peut-être un peu forcé dans le vocabulaire cette fois-ci, c'est l'hébreu devenant araméen. Enfin, nous sommes en sécurité avec l'histoire d'Abraham. Abraham était Abraham en Mésopotamie. Sortant de cet horoscope, il redevient Abraham l'hébreu. C'est clair. Et puis, de notre temps, se produit d'une certaine manière le phénomène inverse. Il y a des juifs qui redeviennent hébreux. Et alors, prenons le cas au niveau d'un israélien. C'est toujours un juif redevenu hébreu. Mais oui, un israélien n'est pas libre d'être israélien ou pas israélien. Et c'est pas simplement au niveau de l'état civil. Hein? C'est indélébile. Comme l'hébreu. C'est le juif qui croit qu'il est libre d'être juif ou pas. Mais il sait très bien, dans un coin de son cœur, que même quand il prétend qu'il est libre de l'être ou pas, l'histoire le lui renvoie à la figure de façon, comment dire, massive. Et qu'un juif comme un hébreu n'est pas libre d'être autre chose que ce qu'il est. Seulement, il y a effectivement cette apparence pour le mérite de la mise à l'épreuve de confirmer à l'échelle individuelle. Et à partir du moment où un juif se confirme son identité hébraïque, alors il s'appelle Israël. Et c'est l'histoire de la lutte avec l'ange. Et il y a un des Midrashim qui nous montre que cet ange, c'est l'ange d'Ésaü, c'est-à-dire la sublimation du frère jumeau, de son propre envers. Et lorsque Jacob a triomphé de son propre envers, alors il est nommé Israël. Vous vous rappelez de la scène de la lutte avec l'ange, je voudrais dire la lutte contre l'ange. Ou peut-être avec l'ange, c'est très joli, c'est plus joli.
Mais il est blessé.
Pardon ?
Il est quand même blessé.
Il est blessé jusqu'à la fin de la nuit, et il est donc solaire à Guérecho, il boit jusqu'à la fin de la nuit, mais quand le soleil apparaît, nous dit le texte, il est guéri. Et à la fin de la nuit, eh bien, il marche droit. Raccord, ça veut dire aussi marcher tordu. Et alors qu'à Israël, c'est Yachar, elle, on commence à marcher droit. Et l'objectif, c'est Yeshurun, la rectitude. Il y a toute une stratégie de l'identité de Jacob, tant que c'est Ésaü qui domine, une espèce de... Vous connaissez le verset d'Isaïe, dans la prophétie messianique, « Rehaya, Rehakov, les Michaud. » Et ce qui était tordu deviendra droit. Vous avez toute cette ligne d'identité, Jacob, tortueux, si j'ose dire, et puis on ne sait pas très bien ce qu'il est. Quand il est en France, il dit qu'il est français. Quand il est en Amérique, le voilà américain. C'est un peu Yaakov, hein, une stratégie, semble-t-il, inévitable pour arriver à survivre à Ésaü. Mais à la fin de la nuit, à la fin du combat, alors il s'appellera Yeshurun. Yaakov, les Michaud. Israël, c'est cet effort pour que Jacob devienne Yeshurun. Vous entendez cela en hébreu, ouais. Et je crois qu'effectivement, nous sommes à un stade où l'histoire a dévoilé cela. Que c'était une apparence, qu'on était libre d'être juif. Les seuls hommes qui sont libres d'être juifs ou pas, c'est les goïms. Eux sont libres de choisir s'ils veulent être juifs.
Ils ne deviennent pas hébreux.
Ils deviennent hébreux.
Comment ?
En devenant juifs. Tout simplement. Et oui, la preuve que c'est possible, c'est Abraham. Nous avons progressé un peu dans l'analyse. La dernière fois, c'est-à-dire c'était vendredi, nous avons étudié un texte sur la définition de la foi d'Abraham. Je vous rappelle simplement. Bon, grosso modo, nous étions tous là. Simplement, rappelez-vous de la définition que nous avons eue, c'est que la foi porte sur une attitude de confiance dans une promesse, et étant donné que la promesse est en contraste avec la réalité vécue dans l'histoire à chaque étape, il y a donc un certain mérite de la foi. C'est ce que nous avons appris dans la controverse qui n'était finalement pas, j'espère, à la fin de l'heure, une controverse réelle entre Rachid et Nachmani. Vous vous rappelez de ça? Bien. Alors nous allons un peu avancer dans cette analyse. Je vous ai indiqué en passant, déjà jeudi soir, pour ceux qui ont assisté à la conférence d'introduction et vendredi matin, il y a en particulier un problème qui, je suppose, sera à l'étude demain soir, à la conférence du Père Dupuis, la relation entre la foi et la loi. C'est un sujet qui va être un peu difficile pour nous à cause du vocabulaire français. Enfin, je vais essayer ce matin de vous donner le minimum des éclaircissements, au moins au niveau du vocabulaire, qui vous permettra de suivre un peu mieux. C'est-à-dire, vous serez privilégié par rapport au reste de l'assistance, le victoire, enfin le dialogue, disons, que nous aurons mardi soir. On m'a demandé de vous préciser le sujet de la conférence de ce soir. Je vous avoue que je ne connais que l'intitulé. C'est M. Trigano qui vous parlera, je suppose, d'un des livres qu'il est en train d'écrire et qui se réfère à Abraham. Il a intitulé « Les deux appels d'Abraham ». Alors, je vais le découvrir avec vous, ce sujet, ce soir.
Et puis on aura à se recoder demain matin, après-demain matin, j'espère. Puisque nous avons encore, à part aujourd'hui, deux autres jours. Alors, je vais vous demander d'ailleurs de réfléchir pendant le cours. Vous me direz à la fin du cours quel est le sujet que vous préfériez qu'on précise pour demain et après-demain, dans les cours du matin. Car le sujet d'aujourd'hui sera le rapport entre la foi et la loi. Et je vous indique une première remarque qui me semble importante en contexte judéo-chrétien, si vous voulez, puisque c'est là que ça va se resserrer mardi soir, c'est qu'il y a un schéma radicalement inverse dans la tradition chrétienne et dans la tradition juive par rapport à l'enseignement d'Abraham. C'est que, pour la tradition juive, la foi est préalable et mène à la loi. C'est, si vous voulez, l'ordre logique cohérent et historique et logique. Alors que pour la tradition chrétienne, tout se passe comme si, selon eux, c'est l'inverse, que la foi est que la loi est une pédagogie préalable à l'accès à la foi. Et vous remarquerez que nous allons parler apparemment des mêmes choses mardi soir, avec un vocabulaire analogue puisque nous parlons français, mais le père Dupuis sera privilégié parce que le français est une langue chrétienne, ce que n'est pas l'hébreu. Mais apparemment on va employer des mots très analogues, mais j'espère que déjà ce matin vous comprendrez qu'on ne parlera pas de la même chose. Nous sommes absolument inversés sur ce problème. Un peu, comme j'ai l'habitude de dire, comme la main droite et la main gauche. Et les deux mains sont des mains, et ça se ressemble beaucoup, mais on ne pourra jamais faire coïncider la main droite et la main gauche.
Et dans combien de temps vous mettrez le mot hébreu
pour corriger? D'accord, déjà ce matin, beaucoup, mais même en bisou. Donc je disais que, vous voyez, les deux mains, la main droite et la main gauche, et ça ne pourra jamais coïncider, à moins de passer par une quatrième dimension et de se retrouver ailleurs. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est se serrer les mains de près. Ils font comme ça. Bien. Et donc, nous aurons à lire un verset et un midrash correspondant ce matin concernant cet ordre. Et vous verrez bien par vous-même que c'est l'enseignement de la Torah en hébreu. Il y a d'abord l'expérience de la foi, et je me référerai à la définition que nous avons eue vendredi matin. L'accès au fait de pouvoir écouter une promesse qui apparaît quand même vraisemblable, tant qu'on vit au niveau de l'être de nature. Et il peut y avoir une sagesse naturelle authentique dans un monothéisme qui serait le monothéisme qu'a gardé essentiellement l'islam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs absolus, plusieurs divinités, polythéismes, mais qu'il y a une unité de toutes les valeurs. Et c'est une foi qui a sa propre valeur, que l'islam connaît dans la définition que l'on pourrait donner en français de l'unicité de Dieu. Un monothéisme de l'unicité de Dieu, ça veut dire que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas plusieurs. Et c'est un accès de la foi monothéiste très familier à la tradition des sémites en général, mais le monothéisme hébraïque va radicalement au-delà. Ce n'est plus seulement un monothéisme de l'unicité. Unicité, c'est le substantif de unique, en hébreu yachid, mais de l'unité, echad. C'est-à-dire que ce Dieu qui est unique à exister comme Dieu est un. Et c'est à ce niveau-là que nous avons un problème avec les chrétiens. Okay, c'est le problème de la Trinité chez eux, mais on ne peut pas déjà entrer trop rapidement dans le problème théologique. Et donc. Ce verset va nous dire très clairement que l'expérience de la foi, émouna, adhésion de confiance dans une promesse qui dépasse l'ordre naturel. Et encore une fois, au niveau de l'être de nature, il peut y avoir une conduite monothéiste de reconnaître l'unité du Créateur de toutes les valeurs du monde. Mais que cette expérience de la foi, de la émouna, doit mener à un comportement de la loi qui dans ce texte sera déjà appelé Mishpat. Alors nous allons voir ça assez en détail. En attendant que les autres textes arrivent, je voudrais vous donner une introduction pour situer ces versets que nous allons étudier. Nous allons étudier essentiellement un verset dans le contexte du récit. Alors j'espère que d'ici 10h30, on aura fini cette introduction. Là, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. Et on démarrera sur ce principe de l'ordre du Seder. Et chronologique et logique selon l'enseignement de la Torah, il y a d'abord expérience de la foi et ensuite accès à la loi. Là, j'ai un problème pédagogique difficile dont je vous avertis à l'avance, pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de l'état de la communauté juive, l'état de la génération actuelle de la communauté juive, parce qu'il vous arrivera de rencontrer des juifs qui sont reliés à la Torah essentiellement par la loi et qui n'arrivent même pas à comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de la foi. Mais ça existe. Okay. C'est une longue histoire d'un point de vue de l'évolution de la société juive en contexte occidental. Et de cela, nous nous sommes occupés dans un autre séminaire qui a eu lieu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'année dernière, donc il y a 2 ans pratiquement en temps universitaire, lorsque nous avons étudié le problème du pharisaïsme, du pharisianisme, du pharisaïsme, les pharisiens et les sadducéens, la relation à la loi et à la foi, historiquement. Mais ça ne doit pas nous gêner, puisque nous essayons de nous renseigner sur l'ordre cohérent, dans sa propre cohérence, de l'enseignement de la Torah elle-même. Et chronologiquement, il y a d'abord Abraham, et ensuite Moïse. Mais ça serait très artificiel de couper Abraham de Moïse. Et justement, ce sera un niveau de la controverse mardi soir, certainement, qu'on ne peut pas prévoir comment le père Dupuis présentera son exposé, mais inévitablement, c'est un des points importants. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez, au niveau de l'expérience existentielle, rencontrer énormément de juifs, de bonne foi, si je vous dis, qui sont reliés à la loi comme telle, sans très bien savoir se situer par rapport à l'expérience de la foi. L'exposé que je voudrais donc ordonner d'après l'ordre même des versets, c'est qu'il y a d'abord expérience de la foi d'Abraham, mais que déjà, elle nous est indiquée en vue d'un ordre de la loi. Voilà, si vous voulez, le sujet général. Alors, d'abord, le contexte immédiat, c'est au moment où va se produire le jugement de Sodome et Gomorre, il y a une révélation donnée à Abraham, et où Dieu indique qu'il va expliquer, à travers une expérience d'histoire, ce qui va se passer à Sodome et Gomorre, qui va lui expliquer ce qu'appelle le texte « Derech Hashem ». « Derech Hashem », ça veut dire 2 choses simultanément. Littéralement, le chemin de Hachem. Alors, la première chose, c'est, vous voyez, le mot pour dire Dieu, c'est Hachem, comme nous l'avons appris vendredi. On pourrait imaginer, ici, chemin, ça veut dire la voie, la conduite, qui est proposée comme règle de conduite à l'homme, à la créature. C'est le premier point. L'homme est voué à réussir le cheminement de sa destinée, si vous voulez, en s'inspirant comme règle de conduite de la révélation que le Créateur donne à la création, le Derech Hashem que l'homme doit suivre. Il y a un deuxième sens que j'indique tout de suite, c'est le Derech Hashem, ça veut dire la voie, la règle de conduite que Dieu lui-même observe dans ses rapports avec le monde. Vous voyez la différence de niveau de...
Son chemin à lui.
Oui, et c'est parce que c'est son chemin à lui que nous avons à, je parle français, à l'imiter, imitation. Laissez de côté l'imitation de... Mais c'est le même concept, pas ? C'est-à-dire, Torah Hashem nous est proposée comme règle de la conduite pour l'homme, mais ce n'est pas un arbitraire que ce soit cette règle plutôt qu'une autre. C'est, deuxième lecture, plus profondément pshat, le Derech Hashem lui-même, le Derech de Hashem lui-même. Et une sorte, comme j'ai dit déjà vendredi, de connivence entre l'identité hébraïque et... la volonté de Dieu en tant que créateur, ce que Dieu attend de son monde est deviné par une certaine manière d'être homme qui est Abraham l'Hébreu. Vous vous rappelez de ces analyses, okay? Et donc, ce n'est pas par hasard que ce peuple en particulier va se voir être l'objet de la révélation en direct de ce qu'est la volonté du créateur pour l'histoire humaine. Si vous voulez, là nous touchons à un point très important, c'est le fait que si révélation il y a eu, et là, je me réfère au consensus historique des religions révélées, qui se rattache à la révélation hébraïque. Si révélation il y a eu, elle a eu lieu en direct, en hébreu aux hébreux. Et elle a été entendue en différé par les autres nations. Et c'est le postulat de la prophétie hébraïque. Et ce n'est pas seulement un postulat, puisque l'histoire concrète des traditions procédant de cet événement de la révélation hébraïque le confirme.